Vous écoutez, on lit pour vous.
Les professionnels de la santé ne sont pas à l'abri des préjugés envers les personnes handicapées. Un texte de Mathieu P. Boisgontier, paru le 13 août 2025 dans La Conversation. Nous avons tous des biais, qu'ils soient positifs ou négatifs, lorsque nous analysons les situations et les personnes qui nous entourent. Par exemple, on peut spontanément penser, à tort, qu'une personne qui parle avec un accent est moins compétente, que les garçons sont naturellement meilleurs en mathématiques, ou encore qu'une personne avec un handicap physique a forcément des difficultés intellectuelles et qu'elle ne peut donc pas occuper un poste à responsabilité. Qu'on le veuille ou non, ces biais psychologiques, aussi appelés attitudes, sont incrustés dans notre cerveau et influencent tant nos décisions que nos comportements au quotidien. Les cliniciens ne sont pas à l'abri d'attitudes défavorables, notamment à l'égard de leurs patients. Chercheur en neuropsychologie de la santé à l'Université d'Ottawa, je propose d'apporter un éclairage sur deux études que j'ai menées sur les attitudes envers les personnes en situation de handicap. Testez vos propres biais en quelques clics. Mes deux études se basent sur les données de participants répartis en trois grands groupes professionnels. Les cliniciens, médecins, physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers. Les assistants en réadaptation, notamment les aides ergothérapeutes et aides physiothérapeutes. Et les personnes exerçant d'autres professions pas forcément en relation avec la santé. Ces données ont été recueillies pendant 19 ans sur le site Implicit Project, qui offre à n'importe qui, n'importe où dans le monde, la possibilité de tester gratuitement et anonymement ses attitudes dans différents domaines tels que l'origine ethnique, la religion, le poids, la sexualité et le handicap. Personnes handicapées ou personnes en situation de handicap? Avant de présenter mes deux études plus en détail, je dois préciser que mon choix de mots pour parler du handicap n'est pas dû au hasard. L'expression « personne en situation de handicap » est parfois privilégiée car elle met l'accent sur la personne plutôt que sur le handicap. À l'inverse, l'expression « personne handicapée » peut être perçue comme une réduction de la personne à son handicap. Cependant, des recherches récentes montrent que l'utilisation du terme « personne en situation de handicap » ne réduit pas toujours les préjugés et pourrait même renforcer la distance ou la condescendance. De plus, imposer un seul type de langage pourrait occulter les préférences de chacun. L'Association américaine de psychologie conclut que les deux formulations sont légitimes tant qu'elles sont utilisées avec bienveillance et qu'elles respectent les préférences des personnes concernées. Attitude implicite et attitude explicite. La première étude, publiée dans Physiotherapy Canada, se base sur les données de plus de 660 000 participants. Elle a permis de caractériser l'évolution des attitudes envers deux types de handicap. Le handicap général, incluant la cécité, par exemple, données récoltées de 2006 à 2021, et le handicap physique, données récoltées de 2022 à 2024. L'étude teste aussi deux types d'attitudes. Les attitudes explicites, qui peuvent être formulées consciemment en répondant à des questionnaires. Par exemple, « Je préfère les personnes qui ne sont pas en situation de handicap aux personnes handicapées » et les attitudes implicites ou automatiques, qui sont souvent inconscientes. Le test d'association implicite, qui est notamment utilisé sur le site Implicit Project, permet d'évaluer ces attitudes implicites. Son fonctionnement est simple. Les participants doivent classer le plus rapidement possible et sans se tromper des mots et des images en associant, par exemple, des concepts de bon ou mauvais à des images illustrant le handicap ou l'absence de handicap. Il importe cependant de noter que ce test n'est pas sans limite. En effet, son association avec les comportements réels est faible, ce qui pousse certains chercheurs à recommander l'ajout de mesures physiologiques des attitudes, comme l'activité cérébrale, ainsi que d'entretiens qui permettent de mieux comprendre les perceptions et les expériences des individus. Vous écoutez, les professionnels de la santé ne sont pas à l'abri des préjugés envers les personnes handicapées. Un discours qui évolue, des automatismes qui persistent. Les résultats montrent que les attitudes explicites, soit celles qui sont déclarées par les participants, à l'égard des personnes handicapées, sont devenues moins défavorables au fil des années. Cependant, les attitudes implicites, inconscientes, sont restées relativement stables et défavorables. En effet, pendant la période de l'étude, la population générale, incluant les cliniciens, semble avoir plus de difficultés à associer des images illustrant le handicap à des mots positifs qu'à des mots négatifs, en comparaison à des images illustrant l'absence de handicap. Ces attitudes défavorables sont particulièrement marquées lorsqu'il s'agit de handicaps physiques, tels que représentés par des personnes en fauteuil roulant ou des personnes qui utilisent des béquilles ou une canne. En comparaison, les attitudes semblaient légèrement moins négatives envers des formes de handicap plus générales, incluant par exemple des personnes aveugles et malvoyantes. Les professionnels de la santé pas épargnés. La seconde étude, publiée dans European Rehabilitation Journal, s'est concentrée sur les données des années 2022 à 2024, portant uniquement sur le handicap physique et incluant plus de 210 000 personnes. Les résultats renforcent l'idée d'une préférence implicite et explicite de l'ensemble de la population pour les personnes sans handicap, tout en montrant que les cliniciens ne sont pas mieux prédisposés que les autres professions. Il semble donc que la profession ait peu d'effet sur les attitudes envers les personnes handicapées. Cependant, d'autres facteurs ont émergé des analyses. D'une part, les hommes ont des attitudes plus défavorables envers les personnes handicapées que les femmes. D'autre part, les participants ayant une expérience personnelle du handicap, comme avoir des amis, des connaissances ou des membres de la famille handicapés ou qui sont eux-mêmes handicapés, ont des attitudes plus favorables envers les personnes handicapées. Un impact sur les soins de santé. La présence et la stabilité d'attitudes implicites défavorables chez les cliniciens soulèvent des questions quant à leur possible impact sur les soins prodigués aux patients. En particulier, la première étude a montré que les attitudes étaient plus défavorables envers les personnes en situation de handicap physique qu'envers les personnes ayant d'autres types de handicap, comme la cécité, potentiellement parce que ces derniers sont moins évidents. Est-ce que cette différence d'attitude pourrait rendre leur prise en charge moins équitable? Ce n'est pas impossible. En effet, les attitudes, en plus de prédire les comportements futurs, influence la prise de décision dans des contextes professionnels. Par exemple, un clinicien ayant un biais implicite défavorable pourrait, sans s'en rendre compte, consacrer moins de temps à un patient en fauteuil roulant, douter de sa capacité à suivre un traitement ou encore orienter ce patient vers des options moins ambitieuses de réadaptation. De même, il pourrait accorder plus de crédibilité aux plaintes ou objectifs de santé d'un patient non handicapé qu'à ceux d'un patient ayant une limitation physique visible. Ces décisions, bien qu'anodines en apparence, peuvent, en s'accumulant, aboutir à des inégalités d'accès, de qualité ou d'expérience des soins. Le poids du capacitisme. Ces résultats illustrent la tendance de nos sociétés à considérer une personne handicapée comme intrinsèquement moins capable ou moins importante que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Cette dévalorisation des personnes en situation de handicap s'appelle le capacitisme. Tout comme le racisme, le sexisme et l'âgisme, le capacitisme ostracise une partie de la société en réduisant, consciemment ou inconsciemment, leurs opportunités de participer à la vie de leur collectivité. Historiquement, le handicap a longtemps été perçu comme une anomalie à corriger pour correspondre aux normes de la société. Si de nos jours les modèles de référence ont dépassé cette vision réductrice du handicap, mes résultats suggèrent que le capacitisme continue d'imprégner notre société de façon systémique et culturelle, influençant jusqu'à nos professionnels de la santé. Comment réduire ces biais? Même si nos attitudes déclarées envers les personnes en situation de handicap se sont améliorées au fil des années, nos préjugés inconscients persistent. Ce constat souligne l'importance de mettre en place des stratégies éducatives plus efficaces. Les interventions les plus prometteuses sont celles qui vont au-delà de la simple transmission d'informations en ajoutant des rencontres et des expériences, directes ou indirectes, avec des personnes handicapées. Cette exposition favorise l'empathie. Pour déconstruire les stéréotypes de façon durable, il faut multiplier ces occasions de côtoyer des personnes handicapées. Puisque les attitudes des praticiens de santé peuvent influencer les soins prodigués aux personnes en situation de handicap, intensifier les efforts pour améliorer ces attitudes devrait être une priorité des institutions de formation et des politiques de santé. À une époque où les idéaux d'équité sont à la fois en progrès et en danger, la lutte contre ces tendances psychologiques défavorables aux personnes handicapées est non seulement essentielle pour améliorer leurs soins, mais aussi une priorité éthique pour la société que nous voulons construire pour notre futur. C'était « Les professionnels de la santé ne sont pas à l'abri des préjugés envers les personnes handicapées ». Un texte de Mathieu P. Boisgontier, paru le 13 août 2025, dans La Conversation.
Fédération mondiale des sourds. Un texte de la rédaction paru sur le site de l'Association des sourds du Canada. L'Association des sourds du Canada, Association of the Deaf, ASC-CAD, est fière d'être affiliée à la Fédération mondiale des sourds en tant que membre ordinaire. FMS, la Fédération mondiale des sourds, est une organisation parapluie fournissant une large gamme de services de soutien et de plaidoyer pour les associations nationales sourdes. La Fédération mondiale des sourds, FMS, a été créée en 1951 lors du premier congrès mondial à Rome, en Italie. La FMS continue aujourd'hui à être une organisation parapluie en pleine expansion, offrant un large éventail de soutien et de plaidoyer des services pour 134 associations nationales de sourds, représentant environ 70 millions de personnes sourdes dans le monde entier. La mission de la FMS est de promouvoir les droits humains des personnes sourdes et complète la qualité et l'égalité d'accès à toutes les sphères de la vie, y compris l'autodétermination, la langue des signes, l'éducation, l'emploi et la vie communautaire. La philosophie de la FMS est l'égalité, les droits humains et le respect pour toutes les personnes, indépendamment de la race, la nationalité, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge et toutes les autres qualités humaines. La FMS fournit également une plateforme pour la coopération mondiale et échange d'informations entre ses membres et partenaires. Comme une organisation internationale non gouvernementale, la FMS a un statut consultatif spécial au sein du Système des Nations Unies, ONU, où il est représenté au Conseil économique et social, ECOSOC, l'éducation, la science et la culture, UNESCO, l'International, Organisation internationale du travail, OIT, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La FMS a un statut participatif auprès du Conseil de l'Europe, CDE, coopère étroitement avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et a des représentants sur les règles des Nations Unies pour l'égalisation des chances pour les personnes handicapées et est membre de l'International Disability Alliance, IDA. Site web de l'Association des sourds du Canada, cad-asc.ca/fr. C'était Fédération mondiale des sourds, un texte de la rédaction paru sur le site de l'Association des sourds du Canada.
Des tours vertes pour se rafraîchir. Un texte de Marie-Laurence Dégagné, paru le 18 août 2025 dans la presse. Face aux canicules qui se multiplient, les citadins cherchent des espaces où se rafraîchir en milieu urbain. Mais permettre à de la verdure de s'enraciner dans les océans d'asphalte que sont les îlots de chaleur, ce n'est pas toujours évident. Une chercheuse de l'Université Harvard a créé une solution temporaire pour verdir rapidement des espaces bétonnés comme des stationnements ou des places publiques. Lorsqu'elle a réalisé que les zones durement touchées par les îlots de chaleur hébergeaient souvent des populations plus vulnérables et des ménages à faible revenu, Belinda Tato, professeure agrégée d'architecture de paysage à la Graduate School of Design de l'Université Harvard aux États-Unis, a senti qu'il était urgent qu'elle mette à profit ses compétences en design pour s'attaquer au problème. Les personnes plus aisées peuvent fuir la chaleur. Elles ont une piscine, une résidence secondaire. Mais ceux qui n'ont rien doivent pouvoir compter sur la ville, souligne-t-elle. Son équipe a donc conçu un prototype de tour végétalisée qui s'installe facilement dans des espaces pauvres en végétation pour que les gens puissent venir s'y rafraîchir. Leur objectif? Que le projet temporaire soit facile à adapter dans d'autres villes avec des matériaux accessibles, abordables, réutilisables et recyclables. Ainsi est né le projet Polynature. Testé l'été dernier par les chercheurs sur le campus de Harvard, près de Boston. Démontée depuis, la structure autonome était faite d'échafaudages, de bulles d'air créant des brises, de panneaux solaires et de plus de 1400 plantes. On avait inséré des capteurs climatiques dans le projet, relate Mme Belinda Tato, et les données prouvent qu'on a réussi à faire baisser la température de façon significative à l'ombre de la structure. C'est fascinant, car l'investissement est minime, surtout en comparaison des projets à grande échelle qui mettent des années à se réaliser quand ils se réalisent, explique Melinda Tato. La professeure n'a pas tort. Les projets permanents pour contrer les îlots de chaleur peuvent mettre du temps à voir le jour. À Montréal, par exemple, entre 2013 et 2023, la superficie occupée par les îlots de chaleur a diminué de seulement 0,4%. Selon l'organisme Vivre en ville, à l'heure actuelle, les secteurs défavorisés de l'île comptent trois fois plus d'îlots de chaleur que les autres. Certaines zones n'auront peut-être pas de nouveaux parcs avant 5 ou 10 ans. Parallèlement aux grands projets d'infrastructure, il faut donc aussi trouver des solutions immédiates intermédiaires, plaide Belinda Tato. Une expérience renouvelée. La chercheuse a répété l'expérience d'une structure temporaire cette année, cette fois dans le quartier chinois de Boston. Ce quartier a souffert du racisme environnemental et d'un manque d'investissement dans les infrastructures vertes. Il y a environ 7 % de couverture végétale. C'est donc un quartier très défavorisé sur le plan du confort climatique, probablement le plus chaud de Boston, explique-t-elle. Encore une fois, l'idée est de voir comment on peut atténuer les conditions climatiques extrêmes dans des endroits essentiellement recouverts d'asphalte. On construit une table de 15 mètres de long, avec des bancs intégrés et 17 arbres qui sont aussi bénéfiques pour la biodiversité et les pollinisateurs, ajoute-t-elle. À l'issue du projet, les végétaux seront redistribués. Les plantes restent dans le quartier et continuent d'attirer les pollinisateurs l'année suivante. C'est magnifique de les voir refleurir, dit-elle, en espérant que son projet fera des petits un peu partout dans le monde. Susciter le débat. Autre objectif de Mme Tatto, créer un espace de discussion à l'ombre des plantes. Sans confort climatique, les gens ne peuvent pas se retrouver dans l'espace public, souligne-t-elle. C'est évident pour beaucoup d'entre nous, mais il y a encore des gens qui coupent des arbres pour mettre du bitume. Pour Valérie Ebacker, urbaniste et coordonnatrice de Vivre en ville, l'une des qualités du projet de Harvard est justement d'attirer les regards. C'est certain, selon elle, que ce type d'objet-là peut être intéressant pour amener la question des îlots de chaleur dans le débat public, pour faire réagir, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des outils plus structurants à long terme. Ça reste trop partiel comme stratégie. Madame Ebacker souhaite que les villes adoptent des plans de transformation ambitieux pour ajouter de la verdure dans les rues, les parcs et les terrains municipaux, mais aussi pour mieux encadrer les espaces privés, où l'on retrouve une bonne partie des surfaces bétonnées. À cet égard, Montréal veut justement redresser la barre. D'ici 2030, elle souhaite atteindre 38 % de végétalisation sur son territoire en agissant tout particulièrement dans des zones plus économiquement vulnérables. Qu'est-ce qu'un îlot de chaleur? Ce sont des zones urbaines, plus chaudes que les zones environnantes, lors de conditions météorologiques similaires. La présence de surfaces imperméables comme le béton et l'asphalte, le manque de végétation et les activités industrielles créent des environnements où la chaleur peine à se dissiper. En période de canicule, ces points chauds posent d'importants risques pour la santé, notamment parce que la température environnante y demeure élevée, même la nuit. C'était « Des tours vertes pour se rafraîchir », un texte de Marie-Laurence Dégagné, paru le 18 août 2025 dans La Presse.
Le gouvernement du Manitoba investit 20 millions de dollars dans la construction d'un siège permanent pour le Centre national pour la vérité et la réconciliation à Winnipeg. Un texte de la rédaction paru le 12 septembre 2025 sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR. Le gouvernement manitobain injecte 20 millions de dollars dans la construction d'un siège permanent pour le Centre national pour la vérité et la réconciliation, actuellement situé à l'Université du Manitoba, a annoncé aujourd'hui le premier ministre et ministre responsable de la réconciliation avec les peuples autochtones, Wab Kinew. Le Centre national pour la vérité et la réconciliation est un lieu qui rassemble la population manitobaine pour honorer les survivants et survivantes et faire progresser la réconciliation, déclare le premier ministre. À l'approche de la journée du chandail orange, ce siège permanent symbolise un engagement durable à respecter les récits des survivants et survivantes et à ne jamais oublier leur vérité, ainsi qu'une promesse à cultiver la guérison pendant de nombreuses générations. Le premier ministre indique que le nouvel établissement sera érigé sur l'ancien terrain du Southwood Golf and Country Club. Il abritera des objets sacrés et des registres historiques, y compris des témoignages oraux de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui a documenté l'histoire du système des pensionnats et ses effets permanents sur les enfants autochtones, leurs familles et leurs communautés. Le centre deviendra un pavillon d'apprentissage international public. On y trouvera des expositions, des espaces de cérémonie intérieure et extérieure et d'autres espaces pratiques. Le premier ministre ajoute que le centre appuiera l'enseignement, la recherche continue, ainsi que le dialogue sur la mise en œuvre des 94 appels à l'action de la Commission. Nous remercions le gouvernement pour cet investissement extraordinaire dans notre nouveau foyer, souligne Stephanie Scott, directrice Centre national pour la vérité et la réconciliation. Grâce à lui, nous pourrons bâtir un espace qui honore les survivants et survivantes, protège leur vérité et accueille des personnes des quatre coins du Canada pour les conscientiser et les guider sur la voie de la réconciliation. Ce cadeau renforcera à la fois notre communauté locale au Manitoba et la cause nationale pour la vérité et la justice. Depuis sa fondation en 2015, le centre travaille à partir d'installations temporaires sur le campus Fort Garry de l'Université du Manitoba. Le premier ministre précise que cet investissement permettra de concrétiser la vision d'un siège permanent. Le projet a également reçu des fonds du gouvernement du Canada et de la Winnipeg Foundation. Le premier ministre indique que le nouvel emplacement est un don de l'Université du Manitoba, qui continuera de fournir un appui non financier. Le mandat du centre découle des appels à l'action de la Commission, qui était chargée d'écouter les survivants et survivantes, leurs familles, leurs communautés et d'autres personnes touchées par le système des pensionnats et de renseigner la population canadienne sur leurs expériences. Le centre porte le nom spirituel Bizig Miigwaan, qui signifie « une plume » en Anishinaabe Mohin, la langue des Anishinaabe. Pour en apprendre davantage sur le Centre national pour la vérité et la réconciliation, visitez le nctr.ca. C'était « Le gouvernement du Manitoba investit 20 millions de dollars dans la construction d'un siège permanent pour le Centre national pour la vérité et la réconciliation à Winnipeg ». Un texte de la rédaction paru le 12 septembre 2025 sur le site du Centre national pour la vérité et la réconciliation, CNVR.